Bonaparte, premier consul, Bonaparte, consul à vie. Le directoire disparu, il faut penser à donner une nouvelle constitution à la France. Bonaparte va en occuper le centre, la circonférence, bref, il l'occupe tout entière. Qu'y a-t-il dans la Constitution ? Il y a Bonaparte. Au lendemain du coup d'État du 19 Brumaire, une commission exécutive provisoire a été nommée. Elle est composée de trois consuls, Bonaparte, Sieyès et Ducos, dans l'ordre d'importance. Il faut peu de temps avant qu'une nouvelle constitution voie le jour. Elle est proclamée le 13 décembre 1799, 22 primaires en 8. Elle comporte 95 articles. C'est l'œuvre personnelle du premier consul, même s'il a laissé à Sieyès l'impression de l'avoir créée. Le pouvoir législatif y est organisé de telle façon que ceux qui discutent les lois ne les votent pas et que ceux qui les votent ne les discutent pas. Le pouvoir exécutif se retrouve aux mains de trois consuls, mais pour toute décision, un article de la Constitution prévoit que la décision du premier consul suffit. Autrement dit, Bonaparte possède les pleins pouvoirs. C'est l'homme fort. Il veut absolument conserver les acquis de la Révolution, éviter un retour à la monarchie. Mais tout ce qu'il va faire tend vers cet objectif, écarter le peuple de la vie publique. Plus jamais d'invasion spontanée de l'Assemblée, plus jamais de désordre. Tout va être contrôlé, surveillé, policé. Bonaparte crée les préfets, les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement, les maires, les conseillers municipaux. Et par qui ces fonctionnaires sont-ils nommés ? Par le premier consul, auquel ils sont évidemment entièrement dévoués. Les juges ? Nommés par le premier consul. Il crée aussi le Conseil d'État qui rassemble 45 membres chargés de rédiger les lois, de les interpréter, en prêtant toujours une oreille attentive à celui qui les nomme et qui les rémunère, déjà impérialement. Le suffrage universel est rétabli, mais les citoyens ne disposent que du droit de désigner des candidats parmi lesquels le gouvernement fait son choix. De l'ordre partout. Voilà l'obsession de Bonaparte, car, dit-il,
« Sans l'ordre, l'administration n'est qu'un chaos. Point de finances, point de crédit public. »
De l'ordre et de la concorde. Les Vendéens, les émigrés, tous sont invités à prendre part au grand projet de réconciliation nationale. Cet appel est entendu par Georges Cadoudal, chef de la chouannerie, qui obtient du général Brune, le 14 février 1800, un compromis de paix. Les émigrés commencent à revenir en France. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des consulats. Les financiers décident alors de miser sur cet homme étonnant, ce Bonaparte qui est capable de leur fournir un terrain national stabilisé dans lequel leur capital va être ensemencé, avec la promesse de récoltes fabuleuses puisqu'elles ne craignent pas les intempéries.
De la concorde dans le concordat. Jureurs et réfractaires, mais prêtres les uns et les autres. Pendant la Révolution, les Français ne savent trop où donner de l'âme. Ou bien ils s'adressent à ceux qui ont prêté serment à la constitution civile du clergé et se rendent ainsi infidèles au pape, le chef de l'Église catholique, ou bien ils font confiance aux ecclésiastiques demeurés fidèles à Rome, mais qui exercent alors en pleine illégalité par rapport aux nouvelles lois françaises. Bonaparte va ramener la paix dans les églises et les chapelles, dans les chaumières et les séminaires. Le 16 juillet 1801, à 2h du matin, il signe un concordat avec le pape Pie VII. Le catholicisme y est reconnu pour la religion pratiquée par la majorité des Français. Le premier consul nomme les évêques qui lui prêtent un serment de fidélité, mais le pape leur donne l'investiture canonique. Les acquéreurs de biens nationaux ne seront pas inquiétés par Rome, en revanche, un salaire convenable est accordé aux évêques et aux curés. Que faire des prêtres jureurs qui avaient renié le pape ? Eh bien, quand ils reviendront dans le sein de l'Église, on tournera la tête et on fera semblant de croire qu'ils n'en sont jamais sortis.
Tout va très vite. Le 13 février 1800, une association de banquiers fonde ce qui s'est appelé la Banque de France, mais qui n'était encore qu'une société privée par action. Son succès est considérable. En 1803, elle reçoit le monopole de l'émission des billets de banque. Le ministre des Finances, Godin, fait de son côté des merveilles, en reprenant et en prolongeant les idées de deux ministres du Directoire, Ramel et François de Neufchâteau, qui avaient installé dans chaque département une agence des contributions directes, créé une sorte d'impôt sur le revenu, réorganisé la patente, la contribution foncière, la contribution mobilière et introduit peu à peu l'impôt indirect. Tout cela est fort efficace. En 1802, le budget est équilibré. L'année suivante, le 28 mars 1803, 7 Germinal en 11 est créée une monnaie qui va rester stable jusqu'à la Première Guerre mondiale, le franc Germinal, qui contient 5 grammes d'argent fin. L'effigie du premier consul figure sur toutes les monnaies, dont la tranche porte cette inscription « Que Dieu protège la France ».
Entre mes mains, un pareil homme aurait fait de grandes choses. Cadoudal, un élève brillant au collège Saint-Yves de Vannes, où il se signale par son sens de la répartie, par son esprit vif dans un corps qui en impose. Adulte, Cadoudal est un géant qui trouve dans la chouannerie bretonne une aventure à sa mesure. Elle lui permet de quitter son bureau poussiéreux de clerc de notaire. En 1793, à 22 ans, il refuse avec éclat la conscription, se retrouve au combat, il est blessé, emprisonné à Brest, puis libéré. Lors du débarquement franco-anglais de Quiberon, le 27 juin 1795, c'est lui qui commande la troupe des Chouans, jusqu'au désastre. En 1796, il accepte de faire la paix avec Hoche, mais en 1797, il se rend en Angleterre, est nommé commandant en chef de la Basse-Bretagne par le comte d'Artois, le futur Charles X. Il lève une armée de 20 000 hommes et reprend le combat en 1799. Février 1800, il signe la paix, davantage par contrainte que par volonté. Quelques mois plus tard, il participe à l'organisation de l'attentat de la rue Saint-Nicaise, où Bonaparte aurait dû trouver la mort. Une machine infernale composée de barils de poudre installés sur une charrette explose entre la voiture du premier consul et celle de Joséphine. On compte 10 morts, des dizaines de blessés. Bonaparte est indemne et demande que sa voiture poursuive son chemin sans se préoccuper de son épouse. Retour en Angleterre pour Cadoudal. Louis XVIII le nomme commandant en chef des armées de l'Ouest. En 1803, il revient pour enlever Bonaparte avec Pichegru, Moreau et quelques autres. Arrêté le 9 mars 1804 à Paris, il est jugé et condamné à mort. Avec 11 de ses compagnons, il est guillotiné le 25 juin 1804. Son corps est donné aux étudiants en médecine. Le chirurgien Larré garde son squelette et le monte sur fil de fer afin de l'utiliser pour ses cours d'anatomie. Aujourd'hui, les restes de Georges Cadoudal reposent à Auray, au mausolée de Kerleano. Bonaparte, qui avait eu avec lui en 1800 une entrevue plutôt houleuse et qui cherchait à le sauver, eut ces mots. « Entre mes mains, un pareil homme aurait fait de grandes choses. »